nuit de prison. Ne sont que des leurs, chassant nos démons. Baillonnons la peur pendant un moment. Chanter, c'est pas vivre, mais c'est l'espérer. Chanter, c'est survivre quand on est vidé, vidé de ses illusions, tout nu et tout con, et sauvé déboussolé, cassé pieds. Je ne suis ni meilleur ni plus mauvais que vous. Contre vents et marées, envers et contre tout, chevillé dans le cœur, un rêve de bonheur. Un jour nouveau qui se lève, chasse mon chagrin. Un geste, un regard, un mot, un ami qui vient. Deux arbres dressés dans le ciel, la lune et la nuit. Deux amoureux dans un champ, font comme leurs parents. Une fille qui revient d'un voyage très loin. Tous ces mots terribles qui font des chansons.
Thank you. sans liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature, et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler tous les quatrièmes lundis de chaque mois, entre 18h et 19h30, sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Bonjour à vous, je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission.
Aujourd'hui, pourquoi les animaux trichent et se trompent ou les infidélités de l'évolution?
Bonjour à tous. À entendre les spécialistes, les animaux doivent batailler pour se reproduire, pour laisser leur gène à une descendance ingrate et querelleuse. Il faut donc se reproduire. Et toute la nature contiendrait cette exigence absolue. Le sexe y apparaît comme utile, puisque 95% des animaux entament avec bonheur une reproduction sexuée. Mais voilà, il semble aussi que le sexe est une machinerie qui ne fait rien que compliquer les choses. Avec le sexe, les gènes se divisent en deux, les spermatozoïdes se multiplient bien que la plupart soient jetés à l'eau inutilement, les ovules se coupent en quatre pour en rejeter trois, et même les partenaires sexuels sont obligés de parader et souvent de se battre avant de s'accorder. Il faut avouer que pour assurer une descendance, le parcours paraît bien plus difficile qu'on ne le pourrait le supposer. Encore que rien ne soit assuré, car quand on a séduit un partenaire, la reproduction connaît encore beaucoup d'obstacles et la progéniture ne semble jamais sortie d'affaire. Comment donc ? Comment l'évolution peut-elle miser tout l'avenir des espèces sur un procédé aussi coûteux et si embrouillé ? S'il faut laisser ses gènes, nom de nom, pourquoi cela n'est-il pas plus simple dans la nature ? Cette grande énigme évolutive n'est pas la seule. Car en plus, il semble bien que plus les espèces soient placées haut dans l'échelle de l'évolution, et moins elles n'ont de descendants. Voilà bien un mystère que la biologie paraît méconnaître. Alors le sexe sert-il à se reproduire, ou est-il le témoin d'une autre aventure de la biologie ?
Eh oui, surprise ! Donc bonjour à vous, intrépides auditrices et curieux auditeurs. Aujourd'hui, nous recevons le receveur, Thierry Laudet. En effet, j'ai le plaisir d'interroger Thierry, car nous allons parler aujourd'hui de la science et des infidélités de l'évolution. Alors Thierry, il semble que le sexe nous égare.
Bonjour Siona. En effet, alors que le sexe paraît irrévocablement lié à la reproduction, il semble bien que cette procédure organique trahissent nos penchants. Rien ne se passe comme prévu. Et s'il y a un mauvais moyen de se reproduire, eh bien c'est précisément d'utiliser le sexe.
Assure-moi, depuis le temps qu'on le répète avec le sexe, l'objectif reste tout de même de laisser une progéniture.
En fait, l'évolution est une étrange histoire d'amour. Ce qui reste, ce sont bien ceux qui se sont reproduits, bien sûr. Et la diversité biologique est bien le résultat de cette évolution. Mais il existe un paradoxe énorme. Plus les espèces animales sont récentes à l'échelle évolutive, dans ce qu'on appelle la phylogénie, et moins elles n'obtiennent de descendants. Alors qu'une méduse prolifère de millions de larves, un saumon ne propage que quelques centaines d'œufs, une mésange n'en aura qu'une dizaine, et un éléphant ne fait plus qu'un petit tous les 3 ou 4 ans. Voilà, bien de bien étranges manières.
Et oui, eh bien nous allons nous pencher sur ce paradoxe, n'est-ce pas ?
De l'infidélité.
Amour au même nid fidèle, amour à la brise et s'aimer. Jeune abeille ou vieille hirondelle, c'est toujours de l'amour. Aimer, tout fait l'amour, et moi j'ajoute, lorsque tu dis tout fait l'amour, même le pain avec la route, la baguette avec le tambour, même le doigt avec la bague, même la rime et la raison, même le vent avec la vague, le regard avec l'horizon. Amour dont la barre vous rive, ainsi que de boulets ramés, amour d'épaves en dérive, c'est toujours de l'amour aimé. Et l'enclume avec le marteau, même le fil avec la toile, même la terre avec le verre, le bâtiment avec l'étoile et le soleil avec la mer. Amour qu'on attrape au passage, amour si vite consommé qu'à peine on a vu leur visage, c'est toujours de l'amour aimé. Un anneau, même avec sa chaîne, quand il en serait détaché, tout enfin, excepté la haine et le cœur qu'elle a débauché. Oui, tout fait l'amour sous les ailes de l'amour, comme en son palais, même les tours des citadelles, avec la grêle des poulets. Et sur toutes les lèvres, amour dans tous les bras, amour dans tous les doigts, amour dans tous les seins et dans toutes les fièvres, amour dans tous les yeux et dans toutes les voix, amour dans chaque ville, ouvrez vos citadelles, amour dans les chantiers, travailleurs à genoux.
Nous écoutions Michel Bernard, Amour au même nid fidèle. Donc Thierry, les animaux trichent et se trompent, comme tu l'annonces dans ton livre que tu viens de publier chez Odile Jacob. Nous voilà donc avertis. Les espèces doivent se reproduire et laisser leurs gènes à leur descendance. L'évolution, c'est précisément cela, la transmission des gènes.
Oui. L'évolution découle d'abord de ce que chacune des espèces, chaque espèce, a une descendance. Aussi, chaque espèce sur la planète va s'efforcer de se reproduire. Alors ça, c'est l'opinion habituelle du néo-darwinisme. Ce que je dis est un peu différent de la théorie néo-darwiniste. Car l'évolution provient d'abord de ce que la progéniture est différente. Avec le sexe, deux partenaires vont obtenir une descendance différente, un troisième être vivant en quelque sorte, dont la variation est ce qui fabrique l'évolution.
Oui, mais toutes les espèces ne sont pas sexuelles. D'autres se reproduisent sans le sexe. Alors, leur descendance est identique dans ce cas-là ?
Ben oui, leur descendance est forcément identique puisque c'est le sexe qui va générer cette variation. Dans le cas d'une reproduction sans sexualité, la reproduction est dite clonale. Alors c'est un clonage naturel. La progéniture possède les mêmes gènes que les parents et il n'y a pas de différence. Enfin, il y en a quelques fois qui apparaît, mais c'est plutôt par des hasards. En fait, les choses sont un peu plus subtiles que cela. D'abord, la reproduction clonale ne concerne qu'une toute petite partie du vivant, enfin une partie importante quand même, qu'on appelle les bactéries. seules les bactéries ne pratiquent pas le sexe. Il peut y avoir des échanges de gènes, une bactérie vivante peut intégrer des morceaux d'une bactérie morte, elle peut intégrer des plasmides, des petites choses comme ça, mais il n'y a jamais de recombinaison totale et il n'y a jamais de méiose. C'est-à-dire que chez les bactéries, il n'y a pas de sexe.
Pourtant, des animaux aussi peuvent se reproduire sans sexe, hein, comme les vers ou certains lézards. Hein.
Oui, on a tous vu plus ou moins ça, des espèces qui sont capables de se couper en deux et d'obtenir une reproduction comme cela. Parce que le sexe et la reproduction, ce sont deux choses totalement différentes. Deux procédures organiques qui sont apparues de manière totalement divergente et à des moments différents de la vie. Seules les bactéries ne pratiquent pas le sexe du tout. Elles ne vont avoir qu'une reproduction clonale. Elles se divisent et se répètent. Ça n'empêche pas qu'elles puissent intégrer des petites variations génétiques, mais toujours en se divisant. Toutes les autres espèces, enfin du moins ce qu'on appelle nous les eucaryotes, c'est-à-dire les champignons, les plantes, les animaux et les paramécies, sont sexuées. Ça veut dire que le sexe va être fondamental pour tous ces eucaryotes. Elles peuvent se reproduire sexuellement. Parfois, elles ne le font pas. Alors pourquoi ne le font-elles pas ? Eh bien, c'est probablement parce qu'elles ont perdu le sexe. Ou du moins parce qu'elles pratiquent le sexe en alternance avec des reproductions non sexuelles. Mais à la base, leurs ancêtres étaient sexués. Par exemple, les lombriques, les vers de terre, font des échanges de sperme, bien qu'ils soient hermaphrodites. Donc, a priori, on pourrait penser que leur reproduction est presque sans sexe, ils sont même capables de bourgeonner dans certains cas. Pour les animaux parthénogénétiques, c'est-à-dire ceux qui vont faire une reproduction entre femelles sans que les mâles s'en mêlent, eh bien c'est tout simplement des animaux qui ont perdu le sexe. D'ailleurs, certains, comme les pucerons, vont utiliser une fois de temps en temps le sexe, une fois de temps en temps la parthénogenèse. Il y a donc une bifurcation évolutive qui est d'abord fondamentale et très primitive, celle entre les bactéries, ce qu'on appelle en fait les procaryotes, puisqu'il y a aussi les archées, enfin, des tas de petits groupements qui sont...
Oui, ça devient compliqué.
C'est un peu plus compliqué, voilà. Et de l'autre côté, les eucaryotes. Les eucaryotes, ce sont les vrais, ceux qui possèdent des vraies cellules à noyaux, que sont notamment les champignons, les plantes, les animaux, et on verra aussi les paramécies.
Et donc, c'est le sexe qui établit cette bifurcation entre les bactéries et les autres.
Voilà. Entre les bactéries et nous, il y a vraiment deux histoires totalement différentes. Les bactéries n'ont jamais eu de sexualité. Tous les autres, au contraire, sont sexués. Attention, ils sont sexués, mais ils ne pratiquent pas nécessairement la sexualité comme la reproduction. Sexualité et reproduction sont encore deux choses différentes. Par exemple, les lézards parthénogénétiques, ce sont par exemple des animaux comme les lézards fouette-queue américains, ils se reproduisent sans fécondation. Ce sont des animaux parthénogénétiques, mais ce sont des femelles.
Oula.
Et être une femelle, c'est quand même bien disposer d'un sexe, nom de nom.
Tout à fait,
voilà.
J'insiste.
La sexualité est une innovation évolutive qui est fascinante, qui va séparer les bactéries de tous les autres et de nous-mêmes. Et donc, à partir du moment où on va se séparer des bactéries, eh bien, la sexualité va émerger. Elle sera utilisée ou non pour la reproduction.
Mais dans ton livre, tu racontes qu'il y a plus, non seulement qu'il existe en fait des femelles qui ne pratiquent pas le sexe, mais il existe des individus sans sexe qui font du sexe.
Oui, oui, ça c'est étonnant. La sexualité n'est pas apparue chez des animaux qui sont sexués ou chez des individus qui sont sexués. Au début, le sexe était pratiqué par des individus indifférenciés qui mélangeaient leur ADN. Alors on retrouve ça par exemple dans les paramécies aujourd'hui. Ce sont des cellules qui n'ont pas de sexe, elles sont toutes identiques les unes aux autres, il n'y a pas de mâle, il n'y a pas de femelle, mais par contre elles font du sexe. C'est-à-dire qu'elles ont inventé l'échange sexuel. Les paramécies se reproduisent, elles se conjuguent, elles font presque de la conjugalité, si vous voulez. Et de temps en temps, quand elles se reproduisent, elles vont se diviser en deux. Et quand elles se retrouvent à se conjuguer, elles se rejoignent. Et là, vont échanger leurs chromosomes. Elles vont échanger, recombiner leurs gènes, faire de la sexualité. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le sexe est arrivé avant les individus sexués. Les individus sont sexués, mais les femelles, après, s'être spécialisé dans le sexe. Mais avant, on pouvait faire du sexe sans être sexué. Donc, il y a la reproduction qu'on peut faire sans sexe, le sexe qu'on peut faire sans être sexué,
ouais, oui.
Et ensuite, les individus qui vont devenir sexués.
Mais quelle aventure ! En fait, si je ne me trompe pas, c'est ce que tu as appelé la théorie des bulles libertines, que tu as publiée d'ailleurs récemment dans une grosse revue. Donc, explique-nous, mais pourquoi le sexe est apparu ?
Alors, il faut plutôt se demander comment.
Comment ?
Parce que c'est plutôt parce que le sexe est un mécanisme d'échange de gènes qu'il s'est imposé dans l'évolution. Mm-hmm. Donc la théorie des bulles libertines, elle énonce que le sexe vient d'un mécanisme très archaïque d'échange de gènes chez ce qu'on appelle les eucaryotes. À la base, en fait, les premières cellules qui ont échangé leurs gènes ont réussi à changer leur patrimoine. En fait, en changeant un petit peu leur patrimoine, puisqu'elles tombaient dans des creux, elles s'échangeaient un peu des gènes parce qu'elles étaient un peu protégées dans l'environnement, tandis que les bactéries, elles, se protégeaient de l'environnement par des parois qui les rendaient de plus en plus imperméables. Eh bien, ces petites bulles qui se sont échangées leurs gènes ont changé leur patrimoine génétique. Et en changeant cela, elles ont changé leur métabolisme, leurs enzymes, bref, elles se sont autorisées de nouvelles adaptations. Donc, plus les bulles ont pratiqué l'échange, plus elles ont été libertines, plus elles se sont échangées de l'ADN, et bien plus, évidemment, elles ont survécu. Et c'est celles-ci qui sont à l'origine de notre lignée des eucaryotes. La sexualité s'est donc développée comme une procédure organique d'échange. Et c'est après que les choses vont se préciser. Car en effet, avec le sexe, bien des complications vont exister. Alors évidemment, la question qui va résider maintenant, c'est pourquoi est-ce que ce mécanisme apparemment si compliqué a-t-il été sélectionné ? Normalement, un mécanisme évolutif est sélectionné, selon le néo-darwinisme, parce que c'est le meilleur mécanisme. Or là, ce mécanisme-là ne paraît pas le meilleur. Qu'est-ce qu'il peut bien faire dans l'évolution ? Et on va voir qu'en répondant à cette embarrassante question, tout ça, ça va nous conduire à changer, évidemment, petit à petit de point de vue sur le néo-darwinisme.
Taškibikumičatoskamo, škamitros, lanicame, dakadimeniros, dianura, lanicame, dakadimeniros,
Taškibikumičatoskamo, škamitros, taškibikumičatoskamo, škamitros, lavičame, dakadimeniros, jeee.
Nous écoutions La vie de jamais de Étienne Perruchon. Nous revoilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans Dieu et sans publicité, et comme tous les quatrièmes lundis de chaque mois, dans une émission qui décoiffe la biologie, science sans liberté. Alors Thierry, tu disais que si le but des animaux était de laisser des gènes, il est difficile de concevoir pourquoi cela est si compliqué.
Eh oui, avec la sexualité, tout est compliqué. Pour la théorie néo-darwiniste, la reproduction est un enjeu évolutif parce que l'objectif ultime de toutes les espèces vivantes est de laisser leurs gènes. Toute l'évolution serait là, c'est le flux des ADN. Réfléchissons. Le sexe est apparu et déjà, il n'est pas du tout avantageux. C'est une procédure organique complexe qui fabrique des cellules très spécialisées, des ovules et des spermatozoïdes.
Oui, si on se reproduisait sans sexe, il suffirait de découper un petit morceau qui pousserait comme une bouture alors.
Oui, c'est le principe même que font beaucoup de plantes qui utilisent le sexe assez rarement. Elles vont préférer bouturer. Non seulement le sexe va compliquer la reproduction, mais il réduit même la capacité à laisser des gènes, puisque à chaque fois, chacun ne peut en laisser que la moitié. Voilà donc qu'on ne transmet que la moitié de son patrimoine d'ADN et ça ne s'arrête pas là, puisque même cette transmission est difficile. Il faut attendre de devenir grand, adulte, car seuls les adultes peuvent se reproduire. Et il ne suffit pas d'être adulte physiquement, il faut aussi être regardé comme un adulte socialement. Sinon, on ne peut pas séduire. Mmh. En plus, il faut trouver un partenaire ou une partenaire. Et là encore, les populations sont divisées en deux, parce qu'il y a des mâles et des femelles. Pour se reproduire, il faut trouver le partenaire adéquat. Et ce n'est pas facile de trouver un partenaire, et en plus, il va falloir en plus qu'il soit disponible.
Quelle complexité! Oui, de plus, il existe aussi des rivalités et des bagarres.
Ah oui, chacun va rivaliser et on peut rivaliser avec un autre. On va chercher à s'isoler les uns des autres alors qu'il faut se montrer convaincant. Il faut avoir un domaine vital, avoir les moyens, être séduisant, ce qui n'est pas si simple. La sexualité va exiger en plus le consentement de l'autre. Et toutes les espèces ont mis en place des mécanismes extraordinairement complexes pour réussir des comportements, pour réussir à attirer l'autre. Et pour le séduire. Alors chacun y va de ses couleurs, de ses balais de séduction, de ses crinières, de ses chants. À chaque fois, les procédures sont tellement élaborées qu'on croirait vraiment rêver. Et en plus, elles sont longues. Ça dépense énormément d'énergie. Il faut danser, courir, se pavaner, chanter, inviter les filles au resto. Si les oiseaux chantent, c'est aussi pour obtenir le consentement des partenaires. Après toutes ces parades, rien n'est encore gagné.
Ensuite, il faut se séduire, que l'autre consente à un accouplement.
Eh oui, parce que les individus ne sont pas seuls. Et on a beau se pavaner et bouger, il faut aussi obtenir ce consentement. Et pour cela, il faut se mettre d'accord à deux. C'est-à-dire qu'il va falloir que les deux compères puissent se synchroniser. Et puis, il faudra recommencer, parce que ce n'est pas gagné qu'on ait une fécondation du premier coup. Donc, il faut aller jusqu'à la fécondation. Puis après, il va falloir faire la couvaison ou l'élevage. Bref, laisser des gènes est si compliqué qu'on dirait que l'évolution biologique a retenu un dispositif qui est sélectionné non pas pour faire de l'évolution, mais pour embarrasser tout le monde.
Oui, mais selon Darwin, cela permet que seuls les individus les meilleurs soient sélectionnés, laissent leurs gènes.
Ah oui, alors c'est un peu cette idée qui tranche dans l'évolution, cette hypothèse que certaines variations vont être avantagées par cette concurrence exacerbée qu'on appelle la sélection naturelle. Mais l'évolution ne peut pas retenir des choses qui ne fonctionnent pas. Il faudrait que le tri des bons gènes soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, pour que le néo-darwinisme soit convaincu sur cet aspect sexuel des choses. En fait, de nombreuses publications scientifiques soulignent le paradoxe énorme du sexe et le problème que cela entraîne. En fait, pour le moment, il n'y a pas de solution, en dépit de plusieurs théories qui essayent de s'affronter. À moins que quelque chose d'autre ne soit à l'origine. Parce que c'est tout de même curieux qu'après tant d'efforts, tant de milliards d'années de difficultés, les individus en plus ne restent même pas toujours avec la même partenaire.
Quoi, les animaux sont jaloux ? Et maintenant les voilà donc infidèles alors ? D'ailleurs, c'est le sous-titre de ton livre, « Les infidélités de l'évolution ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement
oui, en fait,
tout ça ?
Parce qu'en effet, les infidélités de l'évolution sont courantes. C'est-à-dire que 40% des oiseaux qui sont théoriquement monogames vont en fait tromper leur partenaire. Alors ce sont des analyses génétiques qui l'ont prouvé. Et on a pu démontrer que les espèces monnayaient très fréquemment les coquillages. Et donc, en conséquence, c'est assez étonnant de voir que non seulement on va passer énormément de temps à chercher des partenaires et tout, mais qu'en plus on est capable d'aller voir ailleurs, comme si finalement les choses ne se passaient pas. Normalement, plus les séductions et les parades sont difficiles, moins les animaux ne devraient tricher. C'est ce qu'on appelle le gradient de Batman. C'est un principe qui veut que... c'est M. Batman qui a inventé ça. C'est un principe qui veut que le taux de coquillage soit réduit selon la qualité du partenaire. Seulement, voilà. ça ne marche pas vraiment. Alors, il y a eu des thèses qui ont montré que ça marchait un peu chez les hirondelles, parce qu'elles trompent très souvent leurs partenaires. Mais en fait, en général, il y a d'autres textes qui montrent que non, ça marche pas. Donc, même chez les hirondelles. Et puis, si on prend des animaux comme les pingouins, qui sont très, très monogames, comme le petit guillemot de Troyes, par exemple, eh bien, on a jusqu'à 10% de couples qui divorcent. Ce qui est énorme pour des espèces qui investissent dans un seul œuf.
Mais alors, pourquoi ces espèces sont-elles infidèles ?
Alors voilà, c'est une vraie question. Il y aurait bien une explication plausible, darwiniste. Elle serait infidèle parce que il y aurait un problème. Les femelles tromperaient les mâles, parce que c'est quand même toujours les femelles hein, dans ces cas-là. Voilà. Parce que les
ce n'est pas écrit par un mâle. Hein.
Voilà, si, néo-darwiniste, c'est très masculin. Parce qu'il y a des nouveaux mâles qui arriveraient, qui seraient plus séduisants. C'est le best mâle mechanism. C'est-à-dire, en fait, plus les mâles sont beaux, évidemment, plus les femelles auraient tendance à se tromper et à se gourer de mâles.
En fait, ils auraient des belles plumes, les plus belles plumes, les plus belles couleurs, ou danseraient mieux.
Voilà, et toutes ces qualités-là, toute cette qualité de la séduction, ça serait l'indication qu'ils ont une plus grande qualité de gène. Et donc, comme ils ont une plus grande qualité de gène que les cocus, eh bien, les femelles ont tout intérêt à venir les voir. Par exemple, parce qu'ils ont un meilleur territoire, parce qu'ils sont plus riches, parce qu'ils seraient dotés de meilleurs gènes. Que ça soit une qualité matérielle, hein, d'ailleurs, ou une qualité génétique, on mesure cette prétendue qualité par un plus grand succès reproducteur, ou alors par une meilleure immunité des descendants. Alors là encore, il y a eu des textes qui ont dit « oui, ça marche, on a des meilleures immunités, on a des meilleurs reproducteurs ». Mais il y a aussi beaucoup de publications où on s'aperçoit que le bât blesse. Car nombre des infidélités amoureuses se produisent, semble-t-il, complètement au hasard. Les nouveaux amants ne vont pas engendrer une plus grande progéniture. Souvent, ils n'ont pas non plus, il n'y a pas non plus une plus grande résistance immunitaire des descendants, et c'est même parfois le contraire. Notre petit guillemot de Troyes, juste par exemple, eh bien, 85% des divorcés vont échouer dans leur future reproduction. Ça veut dire qu'ils n'ont vraiment, normalement, aucun intérêt à divorcer. Et pourtant, ils le font. Chez les marmottes, c'est encore pire, puisque chaque marmotte qui divorce va augmenter son risque de mourir. On va les retrouver mortes un peu partout, ces pauvres marmottes qui divorcent. Et pourtant, près de 17% des marmottes vont quand même essayer d'avoir des aventures extra-conjugales. C'est clair. Les amours pluriels des animaux n'ont pas grand-chose à voir avec une meilleure reproduction. On voit bien ici que quelque chose d'autre doit intervenir.
पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान
पहचान हो, जीना आसान हो। बोलो तुम हो गए इशारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे। जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो, जीना आसान हो। नजरें दीवानी, चुप चुप देखा देखी नजरें दीवानी। जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी, जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी, जरा सी ये बात बन जाए ना कहानी। जान पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो, जीना आसान हो।
Et je suis toujours avec Thierry Laudet pour parler d'évolution et de son dernier livre. Donc Thierry, les animaux trichent, mais finalement ils se trompent aussi. En fait, je crois qu'il y a 17% des marmottes qui préfèrent divorcer, bien que cela n'entraîne aucun avantage et même elles risquent une surmortalité.
Alors voilà, c'est ça tout à fait le paradoxe de ce qu'on reconnaît dans la théorie évolutive actuelle. Non seulement le sexe complique terriblement la reproduction, mais les coquillages y sont fort nombreux. Les espèces elles-mêmes semblent préférer prendre des risques plutôt que de persister avec un partenaire qui ne convient pas.
Mais c'est plus que cela, puisque en fait certaines espèces préfèrent même copuler avec des espèces différentes qui ne conviennent pas davantage.
Oui, le sexe est quelque chose qui ne fait que compliquer toute la procédure de la reproduction et toute la procédure qui consisterait à laisser des gènes. De quelque côté qu'on se tourne, les hybrides sont parmi nous. On connaît des hybridations qui sont artificielles, comme par exemple entre le mulet, qui provient du jument et de l'âne, c'est une hybridation forcée. Mais autrefois, la théorie évolutive considérait que ces hybridations étaient forcément très rare, puisque cette descendance des hybrides est difficile. Parfois, elle-même, elle est très mauvaise, ou même elle est impossible, c'est-à-dire que les hybrides sont stériles. Car il existe ce qu'on appelle un conflit de génome entre les espèces différentes qui tentent de s'accoupler. Et puis, on a découvert petit à petit que c'était pas tout à fait vrai, que beaucoup d'espèces résolvaient ces problèmes de conflit de génome, et que, par exemple, les plantes s'hybridaient très facilement entre espèces proches. Et puis les plantes, on est passé petit à petit aux animaux, on s'est rendu compte que les insectes, par exemple, n'avaient pas beaucoup de problèmes, que les oiseaux aussi s'hybridaient facilement. Par exemple, une espèce comme le canard colvert peut s'hybrider avec plus de 125 espèces différentes.
Et même des espèces qui se reproduisent rarement peuvent s'hybrider ?
Tout à fait. des espèces plus ou moins rares, comme par exemple les ours bruns, les ours blancs, eh bien, peuvent s'hybrider entre eux. Ça a été un succès prodigieux aux États-Unis quand on a découvert tout à fait récemment l'existence d'hybrides entre les grizzlies et les ours blancs. C'est pareil pour les lynx, hein. Les lynx peuvent s'hybrider entre eux, les fouines et les martres. Et tout cela, ça se passe naturellement. Il ne s'agit pas ici d'hybridation forcée. Ce sont bien des individus qui, dans la nature, changent de partenaire et préfèrent des partenaires qui vont même jusqu'à une autre espèce. Alors beaucoup d'espèces qui semblaient bien claires, bien définies, on pensait savoir ce que c'était qu'une espèce, eh bien montrent en fait qu'il y a des hybridations qui ont eu lieu et qui ont encore lieu. Et donc, ces hybrides peuvent souvent même se reproduire dans la nature et avoir une progéniture fertile. Ça veut dire qu'ils sont fertiles, que leur progéniture est fertile et que finalement, les hybrides font passer des gènes d'une espèce à l'autre par un procédé qui n'était pas prévu. On peut par exemple retrouver des séquences génétiques entières d'une espèce incluses dans une autre espèce. On appelle cela des introgressions génétiques et c'est vraiment très courant.
C'est une complexité bien des mots, introgression génétique. Donc en fait, si je comprends bien, une fouine possède des gènes d'une martre.
Voilà. Une fouine ou une martre qui ont copulé ensemble, il y a pas mal de générations, on va retrouver ces gènes qui vont rester chez les individus et qui vont continuer à les transmettre. Alors tous ces introgressions génétiques, ce sont bien des marqueurs d'hybridation. Ça nous montre qu'il existe en fait des liens entre espèces. Par exemple, les introgressions existent entre le putois d'Europe et le wison d'Europe, qui sont pourtant des espèces relativement rares dans nos marais. Et ça se passe à côté de chez vous, tout ça. Hein. Ces hybrides-là sont en train de se transformer, car vous, bien entendu, auditeurs, vous pouvez vous demander, mais pourquoi ces événements d'hybridation ont lieu? Est-ce qu'ils sont si rares ou fréquents? Eh bien non, ils sont fréquents, il y en a partout. C'est-à-dire qu'il y a eu des événements d'hybridation et qu'ils se répètent entre espèces différentes. Les animaux peuvent convoler en juste noce ou en fausse noce, comme vous voudrez, avec d'autres espèces.
Oui, en fait, les animaux se trompent de partenaire ou quoi?
Oui, on pourrait penser un truc simple au départ. Hein. On a affaire à des animaux, des pauvres bêtes, elles ne sont pas capables de bien réfléchir. Les plantes, c'est un peu pareil. Donc, elles se trompent de partenaire. Ou plutôt, elles prennent ce qu'elles trouvent. Alors, chez certaines espèces rares, on a pu faire des analyses et des études. On s'aperçoit que quand les partenaires sexuels sont très peu nombreux, comme par exemple, ça doit être le cas chez le wison d'Europe, oui, la femelle va copuler avec un putois, elle aura une descendance fertile. Donc, au pire, elle le choisit comme dernier prétendant possible. Mais il y a quand même beaucoup d'amours sauvages qui se font volontairement. Et là, il s'agit bien de choix de partenaires différents. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'individus, plutôt que de copuler avec leur propre espèce, vont être séduits par des facteurs exotiques, par des caractéristiques différentes. Et évidemment, tout cela va entraîner un mélange de gènes totalement improbable, totalement inimaginable. Prenons par exemple les lièvres. Alors il y a des tas d'espèces de lièvres entre la Chine, l'Europe, etc. Eh bien toutes ces espèces copulent entre elles, et ce sont des espèces différentes qui ont tellement copulé entre elles que le patrimoine génétique des uns et des autres va être construit comme une véritable mosaïque de gènes. On retrouve chez tous les lièvres des panachages de gènes qui proviennent d'autres espèces, entre les gènes du lièvre mandchou, du lièvre chinois, du etc., etc., du lièvre tibétain et compagnie. Et le panachage de ces espèces n'existe pas que chez les lièvres. On retrouve ça chez les écureuils, on retrouve ça chez les oiseaux, on retrouve ça chez les insectes. Tout ce panachage complexe de gènes parentaux, hein, cette mosaïque de gènes, ça entraîne les espèces dans un véritable kaléidoscope génétique qui complique beaucoup les analyses de parenté, etc. Et puis surtout, ça se complexifie au fur et à mesure de la longueur du voyage. Les espèces qui sont les plus récentes ont moins souvent de ce paradoxe génétique que les espèces les plus anciennes. Les générations vont s'amalgamer, tandis que d'autres, au contraire, vont s'ignorer. Et donc, elles vont interrompre le processus ou le multiplier. Et tout ça, ça ne dépend que de circonstances et de séduction. Ainsi, pendant des milliers d'années, se forment des hérédités entrelacées, morcelées. Eh bien, on appelle cela maintenant l'évolution réticulée. C'est-à-dire que chaque espèce va échanger des gènes avec les autres sans suivre réellement le principe darwinien de descendance avec modification qui voudrait qu'une espèce petit à petit se modifie graduellement dans la nature.
Oui. Alors, normalement, les espèces se reproduisent et diffusent leurs gènes à leur seule progéniture.
Voilà, c'était ça la théorie. Alors évidemment, on a dû la modifier. Donc, aujourd'hui, on constate que les gènes passent d'une espèce à l'autre. Et parfois, ils passent d'une espèce à l'autre, même sans hybridation. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer d'une espèce à l'autre sans la reproduction. Et ils passent directement. Alors là, on est dans un ensemble de phénomènes non darwiniens qui vont évidemment dessiner une évolution totalement différente de ce qu'on supposait. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est justement dans cette différence qu'on va trouver où se niche l'évolution. Et qu'est-ce qui est en train de faire la diversité du vivant ?
Oui, car tu dis dans ton livre que des gènes peuvent passer directement d'une espèce à l'autre.
Voilà, c'est le transfert horizontal de gènes. Alors ces transferts horizontaux de gènes ont été découverts il y a déjà très longtemps, mais on les croyait très rares. Et puis plus on les analyse, plus ils sont étudiés, plus on s'aperçoit que c'est finalement quelque chose d'assez commun. C'est-à-dire que des gènes d'une espèce vont passer chez une autre. Alors c'est d'autant plus le cas que les espèces sont primitives. Et le transfert de gènes a dû constituer un mécanisme essentiel pendant les premiers milliards d'années de la mise en place du vivant. Il ne s'agit pas d'hybridation, hein, il s'agit bien de passage de gènes directement. Par exemple, des pucerons doivent éviter d'être mangés par les guêpes. Alors les guêpes sont daltoniennes. Ce qui veut dire que les pucerons ont certains avantages s'ils sont rouges. Car s'ils sont rouges, ils vont être invisibles pour les guêpes. Sauf qu'avoir des pigments rouges, c'est la famille des caroténoïdes, qui c'est très compliqué d'obtenir et aucun animal est capable d'élaborer chimiquement ces caroténoïdes. Or, les pucerons sont quasiment les seuls animaux connus à les synthétiser directement. Et ils peuvent synthétiser ces pigments qui vont en plus stimuler l'acquisition des vitamines A, enfin tout un ensemble d'avantages. Comment est-ce qu'ils ont obtenu ces pigments ? Eh bien, c'est là l'astuce incroyable. Ils ont tout simplement chapardé un gène. Ces petits aphidés, hein, les pucerons, ce sont des aphidés. Ils peuvent croquer, voilà, ils peuvent croquer des plantes sans vitamines parce qu'ils ont capturé le gène d'un champignon. Alors, ce vol de gènes s'est fait il y a environ 30 à 80 millions d'années, donc c'est très ancien.
Ah, histoire.
Il y a prescription sur le vol. Mais ce qui était incroyable et ce qui est étrange, c'est qu'en effet, il y a une porosité qui existe entre les espèces. Et là, on parle d'animaux très récents dans l'évolution, puisque nous sommes en train de parler quand même d'animaux qui sont des eucaryotes, des animaux qui disposent de cellules à noyaux. Or, s'il y a des échanges de gènes, de transferts de gènes directement horizontaux qui se font là, sans reproduction, eh bien c'est que vraiment, on est dans un autre type d'évolution, une évolution étonnante.
C'était Man of Constant Sorrow, les Stanley Brothers. Donc, pour revenir, nous revoilà avec Thierry Laudet sur Radio Libertaire pour comprendre une évolution biologique bien différente de ce que l'on supposait. Alors, les espèces se trompent, elles s'hybrident, et des gènes passent sans obéir aux principes de Darwin.
Et voilà, c'est tout à fait ça. Les animaux trichent et se trompent au sens de cocufiage, et leur divorce n'aboutisse même pas à une meilleure reproduction. Oh. Mais en outre, la découverte des procédés de transfert horizontaux de gènes a jeté un sacré pavé dans la mare de la biologie. Au début, donc, les biologistes ont refusé cette hypothèse. Puis, ils ont décrété que ce processus devait être forcément très rare et confiné aux espèces les plus archaïques. Il faut d'ailleurs penser que c'est probablement comme ça que les choses se sont déroulées au début. C'est-à-dire que c'est bien entre les espèces archaïques que ces transferts de gènes ont dû être des éléments primordiaux de leur propre évolution. Mais il faut aussi admettre que ce n'est pas simplement des procédés rares, car les transferts de gènes sont maintenant connus chez les insectes, les oiseaux, les mammifères, les singes et même les humains.
Dans ton livre, tu insistes sur l'idée qu'une évolution non darwinienne existe.
En effet, c'est maintenant le moment de le dire. Il faut dire que ce passage direct de gènes va ressembler beaucoup à un processus lamarckien et non plus à un processus darwinien. C'est-à-dire que là, on a des modifications qui se font directement par le biais de l'environnement. Et donc, c'est ce qui en fait l'intérêt incroyable. Beaucoup d'auteurs modernes, comme par exemple Eugène Conin, reconnaissent que il s'agit bien de processus lamarckiens. Et c'est les mécanismes qui furent sans doute les plus importants au début de l'évolution biologique. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi bien d'autres mécanismes encore qui n'entrent plus du tout dans le schéma darwinien de la sélection naturelle.
Et c'est bien complexe, oui. Par exemple, tu évoques les catastrophes évolutives, comme la disparition des dinosaures, par exemple.
Alors voilà, c'est un petit peu plus compliqué sur les éléments catastrophiques, mais c'est vrai, les catastrophes, ce sont bien entendu des épisodes non darwiniens qui participent à l'évolution. Alors c'est Stephen Jay Gould qui fut l'un des premiers à révéler l'importance évolutive de ces catastrophes chez les mollusques. En effet, en analysant les mollusques anciens, il s'apercevait qu'il y avait des espèces d'interruptions. La variation des espèces était très importante, et puis souvent, soudain, il y avait des espèces de stases et puis des interruptions. Alors pour Gould, cela signifiait que les survivants étaient davantage liés au hasard qu'à la sélection naturelle des adaptations. C'est pour ça qu'il a écrit un livre qui s'appelle « La vie est belle », parce que pour lui, c'était vraiment à la suite d'un hasard pur que notre arrière-grand-oncle, qu'on appelle le Pikaia, qui est l'ancêtre des chordées,
fantastique.
Voilà, ce Pikaia a survécu à une extinction massive. Et ensuite, il y a eu bien sûr les travaux d'Alvarez sur les corrélations entre les chutes de comètes et l'extinction des dinosaures. Et tout ça, ça a rendu cette hypothèse crédible. En effet, on sait maintenant qu'il y a eu des grandes catastrophes, des grandes glaciations qui ont détruit des pans entiers des faunes et des biocénoses. C'est-à-dire qu'énormément d'animaux ont pu disparaître plus ou moins d'un seul coup. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'hypothèse que c'est une catastrophe soudaine qui brûle tout le monde. C'est un peu plus compliqué que ça, à mon avis. Mais il n'empêche que la catastrophe, elle, signe la fin du processus. Il y a un processus de fragilisation d'une biocénose, et puis d'un seul coup, paf, tout ça, ça s'arrête. En tout cas, on n'est plus du tout dans un processus darwinien. Ça veut dire que l'évolution va aussi connaître des sauts brusques. C'est sur cela qu'insiste par exemple Gould dans son dernier livre. Et bon, je ne l'ai pas réinsisté énormément sur ça dans mon livre, mais ce sont des processus non darwiniens qui existent à côté des processus darwiniens.
Mais il existe donc des sauts, d'autres sauts brusques, plus discrets, plus difficiles à voir, hein.
Oui, il y a des petites choses. Par exemple, on a des petites choses vertes qui ont envahi nos cellules. C'est pas la peine d'aller voir s'il y a des petits bonshommes verts ailleurs. On en a auprès de nous. En fait, il y a longtemps que des auteurs se sont intéressés aux symbioses. Les symbioses, ce sont les associations entre des espèces différentes. Par exemple, ça a été l'un des points centraux de l'argument de Kropotkin dans son livre L'Entraide, qui critiquait Darwin. Il appelait son livre L'Entraide, un facteur d'évolution, pour montrer que les espèces pouvaient aussi s'influencer les unes les autres. Mais le premier à vraiment découvrir l'importance de l'inclusion de bactéries symbiotes dans le corps d'autres espèces, c'est Portier. Portier, c'est un chercheur français qui a écrit le livre qui s'appelle « Les symbiotes » en 1909. Et puis ensuite, il y en a eu d'autres qui ont commencé à découvrir tout cela, comme par exemple Margulis, qui ont été rendus très célèbres par le phénomène de l'endosymbiose. Alors l'endosymbiose, c'est quoi ? Il s'agit d'organismes qui sont entrés à un moment donné dans le corps des autres. C'est fabuleux, parce que ici, l'évolution montre que c'est un événement unique qui va avoir d'incroyables conséquences. Par exemple, une bactérie est entrée dans une cellule il y a très longtemps, et puis elle a fusionné au point de devenir un chloroplaste. Les chloroplastes, ce sont ces petites choses vertes qui permettent aux plantes de faire la photosynthèse. Et c'est grâce à cette photosynthèse que les plantes ont pu se développer. Sans cet événement primordial de la fusion d'un organisme qui est devenu le chloroplaste avec un autre qui est devenu la plante, eh bien, pas de plantes, pas de botanique, pas de légumes.
Donc, la photosynthèse n'est possible que parce que les plantes ont acquis une bactérie symbiote directement sans processus darwinien.
Voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que cet épisode est loin d'être le seul. Dans nos cellules à nous, Par exemple, chez les animaux, nous disposons aussi d'un symbiote d'importance, puisqu'il permet ce qu'on appelle la respiration cellulaire, pour faire court, hein, en fait, c'est le cycle de Krebs, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas grave. Bon,
s'agit, voilà. Nos auditeurs nous pardonneront.
Il s'agit en fait d'un mécanisme d'oxydation. C'est-à-dire que ce sont les mitochondries. Alors, qu'est-ce que c'est que les mitochondries ? Eh bien, ce sont des petits bâtonnets qui sont dans les cellules et puis qui donnent l'impression d'être un petit peu là par hasard. D'abord, ce sont des inclusions à l'intérieur de nos cellules. Et ce qui est bizarre dans les mitochondries, c'est que les gènes qu'elles possèdent, elles possèdent des petits gènes qui sont en petits rouleaux à l'intérieur des mitochondries, et ce gène ne se mélange pas avec nos gènes nucléaires. C'est-à-dire qu'il y a les gènes de notre noyau et puis les gènes des mitochondries. Alors pourquoi ? Eh bien, depuis maintenant quelques temps, la plupart des biologistes sont d'accord. Il s'agit très probablement du fait que des mitochondries dérivent d'anciennes bactéries qui ont fusionné avec nos cellules. Ces bactéries sont rentrées à un moment donné dans la cellule des premiers proto-eucaryotes et en réalisant cet épisode, elles ont permis probablement, à l'époque où il y avait un besoin d'oxydation, avec l'arrivée de l'oxygène puisque d'autres algues vertes s'étaient développées, enfin, il y a toute une histoire autour de ça, bien sûr, hein, tout un scénario qui peut s'établir, mais il y a plusieurs milliards d'années, cet épisode s'est passé chez les tout premiers ancêtres des espèces qui vont donner des cellules à noyaux, c'est les eucaryotes. C'est-à-dire le groupe dont nous faisons partie. Et c'est ce groupe qui va donner les paramécies, les plantes, les champignons et les animaux.
Alors là, ce ne sont pas quelques gènes qui pénètrent les espèces, mais des organismes en entier.
Oui, on dépasse carrément la marque. On est ici dans une évolution qui est maintenant beaucoup plus que lamarckienne. Alors, on voit qu'il y a des événements catastrophiques, des événements lamarckiens, des événements étonnants qui peuvent se passer. Si on ajoute à ça, évidemment, tout un ensemble d'autres événements qui vont considérablement modifier le processus évolutif et qui ne correspondent pas nécessairement à la sélection naturelle, eh bien, on se dit qu'il faut quand même comprendre autre chose. Par exemple, on a les apports de gènes par transfert horizontal, on a des endosymbioses, qui sont des procédures non darwinienne et qui ont surtout une très très grande importance évolutive. Bref, l'évolution est bien plus étonnante que prévu. C'est une histoire qui comporte des événements, parfois des événements uniques, hein, des épisodes qui ne se sont passés qu'une seule fois et qui ne se reproduiront sans doute plus, du hasard. Par exemple, on a aussi des modifications de gènes qui se font totalement par hasard, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique, avec des gènes qui n'ont pas forcément d'influence importante sur les modifications et les procédures organiques, c'est ce qu'on a appelé la dérive génétique, donc voilà encore quelque chose de non darwinien. Et puis on a aussi des modifications directes et puis des modifications indirectes. Bref, une chose est certaine, il existe bien d'autres procédures évolutives à côté de la sélection naturelle de Darwin et de la reproduction différentielle, et c'est ça qui est fascinant. Car l'évolution est maintenant une histoire du vivant dont on peut rendre compte qu'à la condition de prendre en compte tout ce qu'on y trouve. Voilà pourquoi il est temps de se sortir du paradigme néo-darwiniste pour essayer maintenant de déclencher, de construire une nouvelle synthèse. Et ça, c'est fascinant, parce que tous les jeunes biologistes qui arrivent maintenant sont confrontés à cette chose-là. On est vraiment dans un état de révolution tout à fait fantastique. Et on va voir que les lois habituelles, par exemple la concurrence darwinienne, eh bien, elle ne tient sans doute pas le rôle principal dans cette évolution biologique.
Yeah.
C'était Kad Shukar de Parnogratz. Ce mois-ci, nous allons donc nous attarder sur des travaux de recherche concernant les animaux qui trichent.
Eh oui.
Les batésiens. Ils se déguisent en animaux toxiques pour échapper aux prédateurs, mais nous allons voir que tricher n'est pas jouer.
Voilà, tout le monde connaît bien ces petites mouches qui ressemblent à des guêpes. Donc ce sont des diptères qui ne piquent pas. Alors il n'y a pas que chez les diptères qu'on retrouve des batésiens. Les animaux batésiens sont c'est ceux qui ont inventé ce mimétisme particulier qui consiste à ressembler à des animaux toxiques pour être protégés des prédateurs. Ces petites mouches, là, nos petits diptères, vont revêtir comme ça le costume d'une guêpe et ils se font passer pour des insectes dangereux. Donc évidemment, les oiseaux sont avertis par cette couleur particulière, jaune, noir, avec des rayures, qui leur offre une protection. Ce mimétisme batésien va donc empêcher les prédateurs d'avoir envie de s'intéresser à eux. Seulement voilà, nous allons voir que de tout ça, on peut tirer un enseignement tout à fait bizarre. Alors, on est évidemment dans un cadre particulier, celui d'évolution, et on va essayer de comprendre pourquoi cette évolution s'est faite avec les batésiens. Bon, d'abord, ils ont acquis cette couleur, les meilleurs d'entre eux ont réussi à l'avoir, etc. Ça, c'est la théorie de la sélection naturelle de Darwin. Mais ce qui est étonnant, c'est que nos amis les batésiens ne sont protégés que par la couleur qu'ils ont de ressemblance avec les guêpes. Alors, vous dites, c'est déjà pas mal. Oui, mais n'oubliez pas, les guêpes, elles ont un aiguillon pour se défendre, pas les batésiens. Ça veut dire que les guêpes, lorsqu'elles sont attaquées, elles peuvent piquer avec leur aiguillon, pas les batésiens. Alors vous me dites oui, mais avec la couleur, les batésiens sont protégés, personne ne va les attaquer. C'est pas tout à fait vrai, car les oiseaux sont pas si bêtes, et de temps en temps, ils goûtent, ils vérifient. Par exemple, si un oiseau attrape une guêpe, eh bien la guêpe va piquer l'oiseau, et l'oiseau dit ok, j'ai compris, quand c'est noir et jaune, j'essaye pas, j'attendrai la prochaine fois. Et ce qui a fait que les guêpes, grâce à ça, sont devenues de plus en plus résistantes. Elles ont une cuticule très épaisse qui permet, et tous les animaux toxiques sont comme ça, hein, ils ont une cuticule relativement résistante. Chez certains papillons, ça peut même être jusqu'à un quart de l'animal qui est arraché, et l'animal va survivre quand même. Pourquoi ? Parce que cette cuticule résistante, ils ont pu la transmettre de descendant en descendant, et évidemment, plus ils ont résisté, c'est-à-dire que quand l'oiseau les a pris, quand ils ont résisté, ils ont pu se reproduire, puisqu'ils n'en sont pas morts, puisqu'ils ont pu piquer l'oiseau. Tandis que du côté des mouches batésiennes, elles, eh bien, quand elles sont attrapées par l'oiseau, elles ne peuvent rien faire. Donc leur cuticule ne peut pas de toute façon les protéger, puisque l'oiseau ne va pas les lâcher. Donc l'oiseau les avale, et point final, elle n'est pas capable de se reproduire, donc il n'y a aucun moyen pour que la cuticule devienne résistante. Conclusion, voilà une injustice grave. Les mouches n'ont que la couleur des guêpes, alors que les guêpes ont l'armure, leur armure particulière, leur dard puissant et la couleur de défense. Donc, déjà, c'est bizarre. Mais il y a beaucoup plus que ça. C'est quand même pas mal d'être déjà protégé au moins par de la couleur, d'avoir inventé ce mimétisme particulier. Ça oblige nos amis les batésiens à vivre exactement comme les guêpes. Il ne faut pas sortir trop tôt le matin, trop tard le soir. Il faut sortir en même temps que les autres animaux, en même temps que les guêpes. Sinon, on pourrait penser qu'ils ne sont pas tout à fait des batésiens. Donc déjà, ils sont limités dans leur emploi du temps, limités dans leur mode de vie, limités dans pas mal de choses. Mais les mouches, elles vont être encore plus limitées qu'on croit. On pourrait penser, en effet, selon le principe darwinien simple, actuel de l'évolution, eh bien, un animal il est bien adapté puisqu'il va beaucoup se reproduire. Puisque là, il est batésien et qu'il est protégé, il devrait mieux se reproduire que d'autres. Eh bien, non. Pourquoi ? Parce que, imaginez, si ces batésiens se reproduisent beaucoup, puisqu'ils sont bien protégés par rapport aux autres, eh bien, ça veut dire que leur nombre va augmenter. Si leur nombre augmente, et que les oiseaux, eux, ont toujours un petit peu envie de goûter de temps en temps ce qui se passe. Ce que les oiseaux font, évidemment, c'est un comportement particulier, de goûter de temps en temps les animaux qui paraissent toxiques, pour vérifier qu'on a bien appris les choses. Eh bien, les oiseaux vont les goûter. Sauf que, du coup, ils ont une probabilité de tomber sur des guêpes qui est devenue beaucoup plus faible. Alors qu'au contraire, ils ont une probabilité de tomber sur des mouches qui sont consommables. Du coup, l'adaptation ne permet pas de bien se reproduire. Il faut toujours que le nombre de mouches batésiennes soit en proportion plus faible que les guêpes. Voilà donc une adaptation non darwinienne puisqu'elle ne permet pas une meilleure reproduction. On dit qu'elle est densité dépendante. N'est-ce pas curieux tout ça ?
Eh oui ! C'était une performance de Lindsay Stirling, Shadows. Voici un extrait du livre de Thierry Laudet. On peut donc imaginer l'inénarrable détresse de la mouche sur sa bouse. Car tandis que l'excrément se dessèche, devenant de moins en moins intéressant pour les femelles, le mâle tente de résoudre un étonnant dilemme. Faut-il rester encore un peu au risque du dessèchement du lit d'amour ? Ou bien tenter de partir à la recherche d'un autre endroit disponible, mais en risquant de rater une femelle qui viendrait encore. Chaque minute passée complique le choix. Il pourrait être question de sélection de groupe, les uns se sacrifiant pour que les autres trouvent une déjection adéquate. Mais les mouches n'ont besoin ni de gènes altruistes, ni de sélection de groupe pour exister. Alors, revenons Thierry, les animaux trompent et se trompent. Et les tricheurs ne réussissent pas mieux que les autres. Pourtant, Darwin avait expliqué que la compétition et la sélection devaient constituer les mécanismes essentiels de l'évolution biologique.
Oui, d'après le néo-darwinisme, l'évolution résulte de la sélection naturelle des individus à travers le filtre de la concurrence. Alors ça existe, c'est pas la sélection naturelle n'est pas remise en cause totalement, elle ne se produit probablement pas tout à fait de cette manière-là. C'est-à-dire que l'hypothèse, c'est que certains vont mieux se reproduire que d'autres, et comme ils se reproduisent mieux que d'autres, ils vont se perpétuer et laisser leurs gènes. Voilà pourquoi l'hypothèse centrale est que les individus vont évidemment tout faire pour laisser leurs gènes.
Mais apparemment, ça ne marche pas comme cela. Ils se trompent, divorcent sans mieux se reproduire, trichent sans succès, et des gènes entrent dans les organismes sans reproduction.
Oui, si on ajoute les catastrophes, tout ça c'est un bon résumé. Donc en fait, il est tout à fait probable qu'il faille considérer qu'il y ait d'autres mécanismes non darwiniens qui vont exister à côté de la sélection naturelle. Alors par exemple, on a parlé des fameuses endosymbioses.
Effectivement.
Des catastrophes naturelles, des transferts de gènes. Et il faudrait ajouter bien sûr le hasard des dérives génétiques.
Oui, mais pour Darwin et le néo-darwinisme, la compétition à l'intérieur de l'espèce est le plus important. On se souvient que Dawkins racontait l'histoire des deux brontosaures poursuivis par un T-Rex. L'un des brontosaures dit « Ce n'est pas la peine de courir, de toute façon, le T-Rex est plus rapide que nous. » Et l'autre brontosaure lui répondait « Je ne cherche pas à courir plus vite que lui, mais plus vite que toi. » Et la compétition est indispensable à la théorie néo-darwinienne, n'est-ce pas ?
Oui, c'est tout à fait ça. Richard Dawkins insiste beaucoup sur cet effet de la concurrence entre les individus qui permet effectivement de mieux comprendre ce qu'est la sélection naturelle. Alors, si Darwin et Dawkins insistent beaucoup sur cette compétition, c'est parce qu'évidemment pour eux, ils imaginent cette vision très égoïste des individus, mais c'est pour moi une vision totalement manichéenne. Car ce qu'ils oublient, c'est qu'il existe des relations entre les êtres vivants. Et que cette relation n'est pas linéaire.
D'accord.
Prenons par exemple la pire de toutes les relations. Alors, c'est un peu ce qui se passe avec le T-Rex qui va nous manger nos deux brontosaures. C'est la prédation. La prédation, elle apparaît vraiment comme la pire de toutes les interactions possibles.
Tout à fait.
Comment pourrait-on penser qu'elle a un bon côté que de se faire manger ? Eh bien pourtant, la prédation, elle n'a pas que le côté noir de l'ombre, elle a aussi de bons côtés. En effet, indirectement, les prédateurs s'attaquent forcément aux proies les plus faciles, car ils ont besoin de réussir à capturer la proie. Donc c'est la proie qui va être la plus malade, l'animal âgé ou le plus jeune, bref celui qui est un peu fragile, qui va se faire manger. Or, en attaquant les animaux malades, eh bien les prédateurs vont empêcher les épidémies de se répandre dans les populations de proies. C'est ce qu'on appelle l'effet vétérinaire de la prédation. On voit donc ici que les relations ne sont pas du tout manichéennes, que l'hypothèse qu'il ne faille regarder que les mauvaises relations, c'est-à-dire la concurrence, n'est pas forcément une bonne hypothèse. On constate au contraire qu'il y a des interrelations et que chacune de ces interrelations, c'est quelque chose d'ambivalent.
Oui, alors en fait, quelque part, il y a deux faces à chaque relation, peut-être plusieurs faces, plusieurs facettes.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on est vraiment dans une série où il y a un côté sombre que Darwin a bien décrit, mais il y a d'autres côtés. Et l'évolution va surtout dépendre de ces milliers d'interactions, car en fait, on n'est pas du tout des individus isolés et égoïstes seuls. Il y a des milliers d'interactions entre les gènes, des milliers d'interactions entre les cellules, des milliers d'interactions entre les individus, des milliers d'interactions entre les espèces, et même des milliers d'interactions entre les milieux et les espèces. Bref, les animaux établissent des interrelations, c'est ce qu'on appelle construire une écologie, où chacun ne peut vivre qu'à condition de vivre à côté des autres. Et chacune de ces interactions sont ambivalentes. Bon, il y en a qui nous sont indifférentes, hein, une fourmi peut passer à côté de nous, on s'en fiche, mais une puce, par exemple, ça peut nous gêner pendant un moment donné.
Ce qui
n'empêchera pas que si on se gratte à cause de la puce, elle ira peut-être sur le chat. Et donc, le fait que nous, on fasse quelque chose, ça va entraîner autre chose, etc. etc. Et puis, il y a des relations qui sont très positives, comme la symbiose, et puis d'autres plus négatives. À chaque fois, on croit qu'il n'y a que ce côté, celui qu'on voit qui existe, mais dans la réalité, même les interactions qui paraissent positives peuvent montrer un côté noir, et les interactions qui sont négatives peuvent montrer un côté blanc. À chaque fois, de toute façon, il faut bien vivre avec les autres. La planète est partagée, nous ne pouvons pas faire autrement. Et notre espèce elle-même, l'espèce humaine, est apparue dans un écosystème qui comprenait des éléphants, des rhinocéros, des arbres, des puces et des bactéries. C'est-à-dire que chacun dépend des autres. Il n'y a pas une espèce qui est apparue seule. Les espèces apparaissent ensemble, dans un ensemble complexe qui va fabriquer son écologie. L'herbivore dépend de la végétation, mais la dissémination des graines et des fruits va dépendre du fait que l'herbivore soit présent, car l'herbivore va entraîner les graines ailleurs. L'évolution est donc d'abord une écologie évolutive.
Mais comment se construisent ces équilibres écologiques ?
Alors, ils ne se construisent pas parce que les individus veulent des équilibres, mais tout simplement parce que chacun établit des interrelations. Et si ces interrelations ne sont pas équilibrées, eh bien, forcément, ça va mal. Ça ne se passe pas bien. Hein, si elles sont violentes, par exemple, eh bien, l'interaction va finir par se démolir. Hein, si la belette mangeait tous les campagnols, il n'y aurait plus de campagnols, il n'y aurait plus de belette. Donc, il faut obligatoirement que l'équilibre se fasse. Les parasites, par exemple, ne peuvent survivre que s'ils ont des hôtes et que s'ils ne sont pas trop détectés par les autres. Donc, il ne faut pas qu'ils soient trop dangereux par rapport aux autres. Les parasites les plus dangereux, ils disparaissent. Les herbivores ne peuvent exister que s'il y a la végétation. Et les prédateurs que s'ils ont des proies. Alors, bien entendu, des petites particules comme les virus qui se logent au milieu de tout ça et puis qui sont encore des molécules sauvages qui font un peu n'importe quoi. C'est du libéralisme sauvage, je dirais, chez les virus. Mais il n'empêche que les systèmes vont petit à petit se structurer. Il y a toute une écologie bactérienne à comprendre et c'est ces structurations de systèmes qui sont importantes. C'est ce que j'appelle, moi, la force structurante des interactions. Chacun vit avec les autres et ça entraîne une relation incroyable entre les êtres vivants qui va exister. Alors, dedans, il y aura un peu de concurrence, mais la relation va être beaucoup plus forte que la concurrence. Et cela nous est montré par la façon dont les associations se font et se défont dans la course évolutive. Par exemple, au départ, les cellules se sont associées pour faire des animaux pluricellulaires. Eh bien, cette association n'est pas une association de concurrence. Il y en a sûrement eu, mais ce sont bien ceux qui étaient ensemble qui ont fait des animaux pluricellulaires. Une autre association intéressante, la viviparité. Il a bien fallu à un moment donné que les femelles acceptent d'avoir des espèces de petits parasites internes, leur propre descendance qui se développe chez eux. Eh bien, voilà encore des associations. Et puis, il y a eu d'autres mutualismes. La pollinisation, par exemple. Et puis, bien sûr, la sexualité.
Et voilà, le sexe, nous y revenons.
Le sexe et l'amour.
Rebelle et soumise, paupières baissées, quitte ta chemise, belle fiancée. L'amour est cerise et le temps pressé, c'est parti remise pour aller danser. La 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 la. Autant qu'il nous semble raisonnable et fou, nous irons ensemble au-delà de tout. Prête-moi ta bouche pour t'aimer un peu. Ouvre-moi ta couche pour l'amour de Dieu. La 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 la. Laisse-moi sans crainte venir à genoux, goûter ton absinthe, boire ton vin doux, aux rires et plaintes, aux mots insensés, la folle complainte, c'est vite élancé. La 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 la. Défions le monde et ses interdits. Ton plaisir inonde ma bouche ravie. Vertu ou licence, par Dieu je m'en fous. Je perds ma semence dans ton sexe roux. La 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 que ma plume tombe de sommeil. Et comme une louve aux enfants frileux, la nuit nous recouvre de son manteau bleu. La 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 la. Rebelle et soumise, paupières lacées, remet ta chemise, belle fiancée, l'amour est cerise, et le temps passé, c'est parti remise, pour aller danser. La 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 la.
C'était bien sûr L'amour et cerise de Jean Ferrat. Alors Thierry, tu disais que la relation entre les êtres vivants est la plus importante.
Et oui, la plus étonnante des interrelations, c'est encore le sexe. Quelque chose d'incroyable s'est passé quand le sexe et la reproduction se sont mis à faire cause commune. Car la reproduction peut parfaitement se faire sans le sexe, on l'a vu, hein, c'est le cas de la division binaire, du bourgeonnement ou même du doublement des embryons chez les jumeaux par exemple.
Et le sexe n'est pas la reproduction.
Et oui, le sexe n'est pas non plus la reproduction. Le sexe au début, c'est un simple échange de gènes entre partenaires. Mais ce qui est plus important que tout, c'est que le sexe attire absolument irrésistiblement les uns et les autres. Par exemple, dans la masturbation, il y a peu de chances de se reproduire, mais c'est quand même bien du sexe. Et le sexe, ça va aussi conduire petit à petit à séduire l'autre. Ça, on apprend un peu son corps grâce à cela. Cela va créer des liens. On peut par exemple être homosexuel, solliciter des caresses, des fellations, des cunnilingus. Tout ça, ça ne va pas donner de reproduction encore, hein, c'est du sexe. Pourtant, on peut trouver comme cela un partenaire de reproduction. Et quand, du coup, on a un partenaire de reproduction, on peut associer le sexuel et le reproducteur. Et c'est là que l'évolution va commencer. Car l'innovation évolutive de la sexualité dans l'évolution montre que le sexe va obliger à construire des relations. Et pas n'importe quelle relation, des relations consenties, voulues, cherchées. Une évolution où chacun est libre de choisir et où la chose importante n'est pas la concurrence, mais la construction de la relation, la construction de l'interaction, tout ambivalente qu'elle soit. Alors qu'auparavant, la théorie néo-darwiniste qui réussit très très mal à rendre compte du rôle de la sexualité, nous voyons ici qu'il est possible de tirer avec la sexualité, une toute autre conclusion, totalement nouvelle, car la sexualité nous prouve que l'évolution promeut bien plus la relation que la concurrence.
Et avec le sexe, ces relations sont obligatoires pour se reproduire chez les eucaryotes.
Voilà, c'est ça que les eucaryotes ont inventé, c'est l'incapacité de se reproduire sans sexe et c'est devenu de plus en plus grave. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on regarde l'échelle des êtres vivants dans l'évolution, on s'aperçoit que chez les eucaryotes, au début, c'est encore un peu, on a encore un peu le choix, on peut ne pas faire de sexe. Et puis petit à petit, c'est devenu de plus en plus obligatoire, avec même des sexualisations de plus en plus grandes des partenaires, avec la viviparité par exemple, où vraiment la sexualité va s'imposer dans la reproduction. Et bien plus même, puisque l'évolution va dépendre de toutes les interactions entre les espèces qui vont façonner des interrelations partout, dans tous les milieux. Tout ça, ça inaugure une écologie évolutive. Ici, c'est bien la force structurante de ces relations provisoires et multiples qui entraîne l'évolution. Voilà ce que je dis dans le livre. Et c'est quand même assez important, ça change totalement
la dynamique. Tout à fait, c'est une dynamique, approche voilà. Différente.
Et si les interactions s'équilibrent, les relations peuvent durer, ce qui va dévoiler une stase, une dynamique d'équilibre, une résistance des uns aux autres. Et si le déséquilibre est trop fort, eh bien tout peut s'écrouler, et du coup ça va s'écrouler comme un château de cartes. Voilà comment on peut beaucoup mieux comprendre à la fois les incroyables associations animales et végétales, les symbioses, mais aussi les crises, les grandes crises comme les extinctions, quand par exemple le château de cartes, va complètement s'effondrer comme une communauté particulière.
Oui, parce qu'il y a d'autres associations que le sexe. Hein.
Eh oui! Le sexe n'est qu'un des préalables qui va entraîner l'obligation des relations. Mais dans l'évolution des eucaryotes, chacun dépend des autres et les autres de chacun. On a vu le problème des endosymbioses, où là, l'association va être tellement étroite que les individus sont accolés l'un à l'autre. Des bathésiens, où là, l'association est un peu plus compliquée, mais il y en a bien d'autres associations. Par exemple, je décris dans mon livre l'association du jet et des fourmis. Alors, le jet, c'est un oiseau insectivore, normalement. Eh bien, il ne mange pas les fourmis. Il va les déranger exprès. Parce que s'il dérange les fourmis, celles-ci vont le bombarder pour se défendre avec leur jet d'acide formique. Et cet acide formique, eh bien, c'est un puissant insecticide. C'est d'abord, évidemment, fait pour lutter contre d'autres insectes. Or, le jet, il va se pavaner sous cet assaut des fourmis. Il va exposer son corps, car les fourmis le débarrassent ainsi, de tous ses parasites. C'est ce qu'on a appelé le fourmillage. En fait, les étourneaux font aussi cela. Et il y a beaucoup d'animaux nettoyeurs, des crevettes par exemple, qui viennent jusque dans la bouche des poissons pour les nettoyer. On voit qu'il faut intégrer une nouvelle, dans une nouvelle théorie d'évolution tout un ensemble de mécanismes non darwiniens, comme les relations, les catastrophes, l'intégration des gènes. Et là, évidemment, on passe à une toute autre chose, une toute autre histoire, un alter darwinisme.
The well-to-do upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and colored collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem lives? Putting on the wrist, spangled gown upon the bevy of high brown, from down the levee all its bits, putting on the wrist. That's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, and we'll attend their jubilee, and see them spend their last 2 minutes putting on the red.
Boys, look at that man putting on that red. You look at him, I can.
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sits? Putting on the wrist, spangled gowns upon the bevy of high browns, from down the levee all misfits, putting on that certain wrist. That's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell folks. Robin Elbow, come with me and we'll attend their jubilee, and see them spend their last 2 bits putting on the wrist.
C'était Fred Astaire. Écoutez, chers auditeurs, je ne résiste pas à vous extraire un passage du livre, du nouvel livre de Thierry. On ne mesure pas toujours la perfidie des fleurs. Déjà, il est flagrant qu'à l'effeuiller trop distraitement, la marguerite se sépare de son dernier pétale au plus mauvais moment. En fait, derrière l'exaltation de leur coloration resplendissante, les fleurs mènent le monde par le bout du nez et l'amour. Là, c'est moi qui le rajoute.
Je vois que tu es intéressé par le livre, c'est très bien. Eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la symbiose stabilise, si le sexe réussit à séduire, la concurrence, elle, n'est qu'une relation qui a mal tourné. Il n'y a pas lieu de tenir pour efficace donc le rôle de cette simple interaction négative et son fondement inné, l'égoïsme. Ça veut dire que si je ne me trompe pas en suggérant que les interactions ont un rôle crucial tel que mes études sur le sexe peuvent le suggérer, eh bien l'évolution suit le scénario d'un agencement immédiat et complètement aveugle. Dans l'enchevêtrement des milieux et de la matière, chaque espèce interagit dans l'environnement des autres. Et ces assemblages fonctionnels vont construire des ensembles subtils, parfois invisibles, où chacun va être interdépendant des autres. Alors le corollaire de ce que ces êtres vivants vont résulter de toutes ces interactions immédiates, mais c'est évidemment que la vie n'a pas de sens. L'évolution n'a pas de direction. Il n'y a pas de finalisme et aucune téléologie ne la parcourt. On en reparlera dans une prochaine émission.
Oui.
Alors évidemment, parfois sous l'effet d'une perturbation de trop, l'ensemble va s'effondrer comme un château de cartes. Hein, c'est ce qui conduit à des crises majeures, à l'extinction de toute une faune, de toute une flore, et sans y faire entrer à cet instant-là le moindre darwinisme. Et puis, il y a là quelques résistants de l'impossible, des nouveaux assemblages qui vont se reconstruire différemment. Alors évidemment, hein, il y aura encore beaucoup à dire sur l'importance des autres dans notre évolution, notamment avec un mécanisme comme le déplacement de caractère. Alors là aussi, on n'a pas le temps d'en parler, on en reparlera plus tard. Et pour les lecteurs assidus, j'espère qu'ils comprendront ce que j'en raconte dans le livre. Pour les auditeurs, rassurez-vous, on va tout re-raconter ça d'ici le mois de janvier ou d'avril, etc. Les animaux trichent et se trompent, et ils dessinent une évolution des uns et des autres, ensemble, dans des mécanismes d'interrelation subtils et provisoires. Et dans tous les cas, l'apparition de la sexualité des eucaryotes eucaryotes nous montre une autre évolution qui s'est construite selon un schéma alterdarwinien. La relation sexuelle inaugure des transferts de gènes qui vont construire un espèce d'hétérogénome, ou même ce que d'autres ont appelé un hologénome, et qui nous montre que la relation a une vraie force évolutive à travers de l'efficacité immédiate. Du coup, il faut intégrer des événements non darwiniens dans une nouvelle théorie évolutive et parler d'une écologie de l'évolution.
Merci Thierry de nous avoir parlé de ton livre étonnant, bien écrit et bourré d'anecdotes savoureuses. Pourquoi les animaux trichent et se trompent, ou les infidélités de l'évolution, publié en septembre, le 19 septembre, chez Odile Jacob. Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez nous contacter en téléphonant au studio sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les quatrièmes lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et les idéologies qu'elle porte. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, où je recevais Thierry Laudet avec la complicité de Monique à Paris. La musique d'introduction est d'Hicham Chahidi et nous allons conclure sur Segundo Compay, Chine Chine.
mujer. Y al Tocelo voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Aux oiseaux le permis de chasse, aux enfants les parents mineurs, aux souris le matou d'enfance, aux matous les toits du bonheur.
S'il faut tirer par tous les bouts,
copains tirons les 400 bouts. Aller au cinéma palace et s'engouffrer dedans l'écran, prendre Bardot par la tignasse et la carrer dans nos divans, faire l'amour à l'algébrique avec les inconnus du coin, et d'un triangle nostalgique faire des petits républicains.
S'il faut tirer par tous les bouts, copains,
les poètes, tous ceux qui parlent avec des mots, leur recommander des chansonnettes, on déduira de leurs impôts. Mettre un bicorne à la romance et l'amener à l'institut avec des orques et que ça danse, la poésie est dans la rue.
S'il faut tirer par tous les bouts, amis, tirons les 400 bouts, amis, tirons.
Vous pouvez faire monter vos bières, un jour vous n'aurez que la peau, messieurs les mecs des ministères, y en a marre. En même temps que nos chagrins, vous pouvez préparer vos larmes, un jour nous ferons notre pain dans vos pétrins avec nos armes, y en a marre. En même temps que nos frangins qui se préparent dans le monde à réviser tous vos machins, nous ôterons compte vos secondes. Y en a marre, y en a marre. Il y a quelque temps, Christophe Colomb, croyant découvrir l'Amérique, a découvert dans le coton des blancs jouant avec la trique. Y en a marre. Il y a quelque temps, Monsieur Franco, à peu près au temps des cerises, a descendu tous les oiseaux qui chantaient la terre promise. Y en a marre. Monsieur Einstein, loin des canons, croyant travailler pour lui seul, a découvert des équations qui vont nous tomber sur la gueule. Y en a marre, y en a marre. Qu'est-ce qu'elle vous a donc fait, la lune, pour vouloir lui refiler vos puces? La vie est courte et y'en a qu'une, qu'on soit ricain ou qu'on soit russe, y'en a marre.
qu'est-ce qu'elles vous ont fait les étoiles pour vouloir leur filer les miches? D'ailleurs, au train où elles cavalent, faudrait peut-être consulter vos fiches. Bien à main. Qu'est-ce qu'ils vous ont donc fait les hommes pour vouloir leur filer la cerise? C'est peut-être des poires, c'est peut-être des pommes, mais laissez-leur au moins la chemise. Y'en a marre.